voudrais lire quelques versets dans l'Apocalypse, sujet bien connu sur les sept assemblées dans les premiers chapitres. Mais même si c'est bien connu, c'est important d'y revenir. Apocalypse chapitre 1, verset 10. Chapitre 1, verset 10. Je fus en esprit dans la journée dominicale et jouis derrière moi une grande voix comme d'une trompette, disant ce que tu vois, écris-le dans un livre et envoie-le aux sept assemblées, à Éphèse, à Smyrne, à Pergame, à Thyatire et à Sardes, et à Philadelphie et à Laodicée. L'Apocalypse, donc, c'est tout ce livre sur les révélations, sur l'avenir, les conseils de Dieu quant à l'avenir, et à partir du chapitre 4, c'est sur les choses après le retour du Seigneur. Donc, dans les chapitres 1 à 3, c'est sur le temps entre l'ascension du Seigneur et puis entre la Pentecôte de Acte 2 et puis l'enlèvement de l'Église. Alors, c'est, disons, une période immense, c'est 2000 ans. Il se passe beaucoup d'événements, tous les nations sont en bouleversement. Et au fond, de quoi Dieu veut nous occuper et de quoi il s'occupe comme étant la question importante pendant ces 2000 ans? Eh bien, c'est sept assemblées, mais nous savons que c'est représentatif de cette phase de l'Assemblée universelle. Donc, retenons ceci, cette importance extrême que Dieu, que le Seigneur donne à son Assemblée et que, au fond, sur 2000 ans d'histoire de l'homme, on pourrait presque dire il n'y a que ça qui compte. Et rien que cette pensée est déjà extrêmement importante pour nous dire qu'est-ce qui compte devant Dieu, nous dire qu'est-ce qui est important à considérer, et on dira oui, mais pourquoi c'est spécialement ces sept assemblées qui en plus de ça, elles sont dans une petite région qui fait partie maintenant de la Turquie, et qui plus est, la Turquie qui est devenue musulman, et où finalement presque tout ce christianisme est extérieurement à peu près éteint. Alors, pour se rendre compte de l'importance de cette question de l'Assemblée, et pourquoi Dieu nous en parle et Dieu s'y intéresse au premier chef, on peut retenir voir quelques versets dans l'Épître aux Éphésiens. Alors, dans l'Épître aux Éphésiens, on a donc partie doctrinale dans les chapitres 1 à 3, partie pratique, dans conséquences pratiques dans les chapitres 4 à 6. Alors, d'un côté, le premier chapitre de l'Épître aux Éphésiens nous parle des bénédictions que nous avons, qui sont pas du tout des bénédictions terrestres, qui sont donc, on le dit souvent, chapitre 1, verset 3, « Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ, qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. » Alors, les détails de ces bénédictions sont détaillés dans la première moitié de ce chapitre. Et alors, ayant détaillé ces bénédictions, l'apôtre exprime le sujet de ses prières pour les Éphésiens, et pour les Éphésiens, c'est pour nous tous pareil. Le sujet des prières, c'est donc qu'on se rende compte, qu'on aille, on a ça le chapitre 1, verset 14, je ne cesse pour vous de me faire mention de vous dans mes prières, afin que donc le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, Père de gloire, c'est important parce que justement il nous occupe de la gloire et pas des choses de la terre, et qu'il vous donne l'esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance, les yeux de votre cœur étant éclairés. Alors ça c'est très important parce que sinon il y a toujours le risque qu'on soit ou bien qu'on aille les yeux fermés, ou qu'on soit endormi, ou attiédi, puis qu'on regarde pas, qu'on est distrait. Alors c'est important d'avoir les yeux de notre cœur éclairés. Le cœur, c'est pas seulement un cœur qui a de l'amour dans le cœur, mais il y a de l'intelligence à avoir et des yeux pour voir. Pour que vous sachiez, alors il y a trois choses sur lesquelles le cœur doit être occupé. L'espérance de notre appel. Alors ça, on a ça spécialement dans les 8, 7 ou 8 premiers versets du chapitre 1. C'est ce que Dieu s'est proposé, il nous a prédestinés pour nous adopter pour lui. Je rentre pas dans les détails de ces premiers versets. Ensuite, on a l'héritage, les richesses de la gloire de l'héritage dans les saints. C'est dans les versets 10 à 14 où on a Christ qui est propos de Dieu est de réunir en un toutes choses. Réunir en un, c'est de mettre dans les mains de Christ toutes choses, dans les cieux et sur la terre, et non seulement le dominateur, mais l'administrateur, celui qui hérite et qui s'occupe de son héritage, les choses précieuses. Alors on dira, ben, tout ça c'est très bien, mais il n'y a toujours pas l'assemblée. Et puis, la troisième chose, il y a toujours de voir quelle est l'excellente grandeur de sa puissance envers nous qui croyons, selon l'opération de la puissance de sa force qu'il a opérée dans Christ. Alors, l'excellente grandeur de cette puissance, elle s'est opérée, donc, verset 20, dans le Christ, en le ressuscitant d'entre les morts. Alors ça, on comprend bien que c'est une chose extraordinaire et importante que Christ est ressuscité, puis ressuscité d'entre les morts. Et là, s'il y a quelque chose qui est totalement impossible à l'homme actuel, qui peut, pourtant, il fait des réalisations extraordinaires. Dieu dit à l'occasion de la tour de Babel que l'homme ne sera arrêté en rien de ce qu'il se propose de faire. Mais ça, par contre, redonner la vie, quand il y a la mort, ça, c'est, il n'y a que Dieu qui peut le faire. Et alors, on comprend pourquoi c'est l'excellente grandeur de sa puissance. Et cette puissance, elle a été envers Christ, et voilà que c'est cette même puissance qui est envers nous. Alors, on est souvent occupé de notre faiblesse, nos insuffisances, et voilà que la parole vient nous dire que c'est envers nous qu'il y a une excellente grandeur de la puissance de Dieu. Étonné, mais on reçoit cela et on comprend qu'il faille prier pour qu'on saisisse cela. Alors, tout ça, encore une fois, on dirait, ben voilà, c'est les sujets de prière de l'apôtre, c'est trois choses, l'espérance de l'appel, la gloire de l'héritage, l'excellente grandeur de la puissance, et il n'y a toujours pas l'assemblée. Et alors, on voit, c'est à propos de cette excellente grandeur de la puissance exercée envers le Seigneur, envers Christ, que donc non seulement il l'a ressuscité, verset 20, mais fin du verset 20, il l'a fait asseoir à sa droite dans les lieux célestes, et la glorification après la résurrection. Ensuite, après la glorification, il est positionné au-dessus de toute principauté et autorité et puissance, non seulement dans ce siècle, mais dans tout celui qui est à venir. On voit, c'est pas seulement une domination qui lui est donnée, toute chose soumise entre ses mains, mais on voit quelque chose d'infiniment plus glorieux que nous avons même de la peine à concevoir, parce que toutes ces puissances et autorités, on les connaît guère. Penser qu'elles existent, que le Seigneur est au-dessus, et qu'il est au-dessus non seulement dans ce siècle, mais dans celui qui est à venir, il y a une immensité du temps. Et puis, il a assujetti toute chose sous ses pieds, alors on voit cette domination, déjà le psaume 8 parlait, et à la fin de tout ça, il l'a donné. A donné qui? C'est Dieu qui a donné Christ pour être chef, tête, sur toute chose à l'assemblée qui est son corps, la plénitude de celui qui remplit tout en tous. Alors on voit effectivement l'assemblée qui vient comme, en un sens, comme un couronnement de toute cette activité grandiose et glorieuse de Dieu. Et alors, on dirait bien, pour grandir le Seigneur, il fallait lui donner une épouse qui soit à son niveau. Et voilà que ce que dit l'apôtre, c'est le contraire. C'est pas l'assemblée qui est donnée à Christ comme épouse, c'est Christ qui est donné à l'assemblée. Comme si l'assemblée était quelque chose de tellement glorieux, important et excellent, et tellement précieux, que pour parfaire toute son activité, il fallait qu'il lui donne Christ. Alors c'est, encore une fois, c'est des choses, nous prenons la parole comme elle est, telle qu'elle est, nous la recevons, nous la croyons, mais nous sommes surpris, émerveillés de l'importance que Dieu donne à l'assemblée, puisque tout ce qu'il a fait pour Christ, c'est le donner à l'assemblée. Alors, dans le chapitre 2, l'apôtre développe plutôt l'état dans lequel les Éphésiens étaient, des gens des nations, des païens idolâtres, mais il développe plutôt ce qu'il a fait d'eux individuellement. Alors c'est bien, il les a vivifiés ensemble avec Christ. Alors on dirait, ben c'est bien ensemble, c'est pas individuel. Oui, sauf que c'est quand même chacun individuellement qui est vivifié, qui est ressuscité. Alors, effectivement, ils sont mis ensemble, mais le côté important, c'est la vivification, la résurrection, ce qui opérait dans chacun. Après, il est détaillé l'état, soit qu'ils sont considérés au début du chapitre comme morts, soit qu'ils sont considérés comme chapitre 2, verset 12, étant sans Christ, sans Dieu, sans espérance, étranger, sans droit de cité en Israël, étranger aux alliances, etc., n'avait rien. Et voilà que on devient gens de la maison de Dieu, mais là encore, c'est plutôt le côté individuel. Alors, trois choses dans lesquelles les croyants sont vus. Donc, ils sont vus comme verset 19, chapitre 2, verset 19, gens de la maison de Dieu. Verset 20, édifier un édifice qui croit pour être un temple saint, verset 21, donc gens de la maison de Dieu, c'est les gens qui sont dans la maison. Verset 21, c'est le temple, c'est l'édifice lui-même, et puis c'est pas n'importe quel édifice, puisque verset 22, Dieu y habite dedans, par l'esprit. Mais tout ça, c'est pas présenté tellement comme étant l'assemblée, c'est ce qu'il a fait de nous, de chacun de nous individuellement. Et alors le côté de l'assemblée revient par excellence au chapitre 3, où l'apôtre Paul montre quelle est, il est dit, l'administration qui lui a été confiée. Alors, le mystère de l'assemblée avait bien été révélé, il est dit, chapitre 3, verset 5, aux saints apôtres et prophètes, c'est-à-dire que les autres apôtres aussi avaient compris la question du corps de Christ, le mystère du Christ, c'est ce mystère de Christ joint à l'assemblée pour être un seul corps, qui, encore une fois, ça fait partie de choses que la parole nous enseigne, mais qui, pour des gens du monde, sont plus que difficiles à comprendre. Et alors, les apôtres avaient connaissance de ce mystère, mais il n'y a que l'apôtre Paul qui en est vraiment l'administrateur, c'est-à-dire celui qui est chargé de développer et faire connaître tout ce qui concerne l'assemblée où les nations avec les juifs, chapitre 3, verset 6, sont ensemble cohéritières, c'est-à-dire participants de l'héritage sur lesquels il fallait avoir les yeux ouverts au chapitre 1. Ensuite, elles sont d'un même corps, participe de la promesse, et je ne détaille pas les détails de ce chapitre 3, simplement pour souligner que ce sujet de l'assemblée était le sujet de l'objet principal de l'apostolat de l'apôtre Paul. C'était sa fonction. Tout ça pour dire que on voit que ces choses sont donc présentées aux Éphésiens. Alors, on dira, oui, mais il y a toutes les autres épîtres. Mais les autres épîtres, la plupart, c'est qu'il y avait quelque chose qui allait pas et qu'il fallait redresser. Les Romains, c'était plutôt qu'ils savaient pas encore sur le salut. Les Corinthiens, il y avait plein de désordres. Les Galates, il y avait une fausse doctrine qui s'était introduite. Les Philippiens, il y avait des disputes entre eux. Les Colossiens, ils étaient terrestres. Les Thessaloniciens, ils débutaient aussi. Et ils étaient soumis à des persécutions. Bref, toutes sortes de problèmes partout. Et alors, les Éphésiens, c'était un peu le seul cas où, apparemment, il n'y avait pas de problème dans cette assemblée à ce moment-là. Parce qu'après, il y en a eu et il y en aura. Et alors, donc, c'est pour cela que c'est dans cette épître qu'on trouve un peu le couronnement de la doctrine de Paul, les sommets du plus important de ce qu'il voulait présenter. Et alors, c'est là que, effectivement, c'est là qu'il est parlé de l'assemblée, mais encore une fois, je reviens sur ces derniers versets du premier chapitre, c'est pas simplement présenté comme un privilège excellent, c'est heureux de se retrouver ensemble, c'est heureux des activités qu'on a dans l'assemblée, mais c'est une importance extrême que pour Dieu, l'assemblée est tellement importante que Christ lui a été donné comme tête. Alors, nous recevons ces choses-là, mais encore une fois, ce qu'il faut en conclure, c'est l'importance de l'assemblée. Alors après, on va voir, notamment à la suite de ce qu'on trouve dans l'Apocalypse, on trouve que effectivement, sur un plan concret de ce qui est arrivé dans l'assemblée, ben, il y a des désordres, de la dispersion, toutes sortes de déraillements. Et alors on dira, ben, c'est la ruine, oui, c'est la ruine. Et alors on dira, ben, il y a rien à faire. Ben, c'est le propre justement de la parole de Dieu, de nous présenter les choses telles qu'elles sont dans la pensée de Dieu, telles qu'elles sont à l'origine. Et même si l'homme a mis tout le désordre qu'il a pu ou qu'il a voulu, si tout est par terre, si c'est la ruine, eh ben, il n'y a rien qu'à changer dans la pensée de Dieu. Alors, on va voir que, justement, ces chapitres de l'Apocalypse soulignent que, effectivement, il n'y a rien qui a changé du côté de la pensée de Dieu et que c'est à nous à en tenir compte. Et non seulement à en tenir compte, mais à vivre conformément à ce que Dieu nous a révélé. Alors, retenons bien cette importance. Donc, pourquoi il y a ces lettres aux sept assemblées, Apocalypse chapitre 1, versets 10 à 11, qui sont écrites aux sept assemblées, parce que l'assemblée a une importance extrême. Et alors, dans ces sept assemblées, on a donc les chapitres 2 à 3 qui traitent de ces questions-là. Je pensais ne pas détailler ce qui est dit des assemblées elles-mêmes, mais surtout de ce qui, premièrement, de ce qui est dit aux vainqueurs. Alors pourquoi il est question de vainqueurs? Mais c'est justement parce que, comme sur un plan concret et pratique, il y a du désordre et de la ruine qui se sont introduits dans l'assemblée, eh bien, il faut qu'il y ait des vainqueurs, et les vainqueurs, c'est ceux qui n'acceptent pas qui ne prennent pas leur parti de cet état de choses ou de cette ruine, mais qui tiennent compte de la pensée de Dieu pour suivre le chemin. Alors, pourquoi il y a sept vainqueurs différents? Ben, c'est justement parce que, comme il y a sept églises, c'est-à-dire cette phase, cet état, cette phase de l'histoire de l'église, ben, selon les phases, les vainqueurs ont des caractères différents parce que les problèmes auxquels ils ont à faire face sont pas les mêmes. À la fois, c'est des phases de l'église dans le temps, mais n'empêche que, on trouve dans toutes ces églises, il y a cette expression que celui qui a des oreilles écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées au pluriel. Ça veut dire que on n'écoute pas seulement ce qui est dit pour la phase à laquelle on appartient, mais on écoute ce qui est dit pour toutes les phases. Et c'est pour ça qu'il faut écouter ce que l'Esprit dit aux assemblées au pluriel. On écoute tous. Alors, premier vainqueur, c'était donc celui, je te donnerai de l'arbre de vie qui est dans le paradis de Dieu. Alors on dira, ben, la vie c'est tout simple, on sait très bien qu'il faut être né de nouveau, qu'il faut avoir la vie. Mais au fond, on a lu ce matin justement des versets sur cette vie, où en fait, il n'y a pas seulement la vie de celui qui est né de nouveau, il y a une vie à laquelle Dieu pensait dès l'éternité. Non seulement il y pensait, mais il l'a promise. Et puis, il a pas seulement promis, elle était même donc la base de l'apostolat de Paul, qui a reçu son apostolat selon la promesse de la vie. Et puis, c'est aussi cette vie qui est liée à la bienheureuse espérance. Alors, on voit que cette question de l'arbre de vie, c'est vraiment en Éden, Adam a tout perdu. Il a perdu l'accès à l'arbre de vie. Et voilà que tout est retrouvé, ou au moins en promesse, puisque c'est « je lui donnerai de manger ». Tout est redonné, retrouvé, et la pensée de Dieu sur la vie est donc précieuse dans ce sens qu'elle nous est redonnée. Donc c'est pour cela que ça a une grande valeur. Mais il faut effectivement saisir que ça dépasse largement le simple fait d'être né de nous. Et puis, c'est une vie qui, bien sûr, elle suppose la résurrection, parce que c'est l'arbre de vie, c'est la vie éternelle donnée par le Seigneur qui implique la résurrection. Et alors, on comprend pourquoi ça a de quoi faire brûler les cœurs et produire le premier amour. Et que, effectivement, perdre le premier amour, c'est en particulier perdre tout ce qu'il y a de précieux dans cette vie qui a été promise par Dieu dès l'éternité. C'est la base. C'est le premier vainqueur, mais on comprend que ça s'applique à tous les vainqueurs dans toutes les circonstances. Alors, pour Smyrne, donc c'est l'église de la persécution. Donc il n'y a que deux églises auxquelles il n'est pas fait de reproches, c'est Smyrne et Philadelphie. Toutes les autres, il y a des reproches qui sont faits. Mais c'est une persécution qui va jusqu'à la mort. Certes, il est dit, chapitre 2, verset 10, le diable va jeter quelques-uns d'entre vous en prison. Mais oui, sauf que, à la fin du verset 10, il est dit, sois fidèle jusqu'à la mort. Et je te donnerai la couronne de vie. Et puis, celui qui vaincra n'aura point à souffrir de la seconde mort. Alors, ce qui est frappant dans ces versets, c'est, on dit, tendance à nous, humainement, à penser que la mort, c'est la catastrophe finale, c'est la fin de tout, tout est perdu, on n'a plus rien, et là, c'est presque considéré comme, pas comme quelque chose de dramatique, ça peut aller jusqu'à la mort, d'accord, mais faut être fidèle, mais de toute façon, après, je te donnerai la couronne de vie, et tu n'auras point à souffrir de la seconde mort. Parce que celle qui, il y a la mort du corps, mais on en sort par la résurrection. Mais le pire, l'effroyable, c'est la seconde mort. Celle où on est séparé de Dieu à toujours. Alors celle-là, il y a de quoi la craindre. Mais celui qui écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées, qui désire être fidèle jusqu'à la mort, c'est-à-dire c'est la fidélité dans le détail. Et on dira, oui, mais bon, ça ça marche pas pour nos pays, parce qu'on est dans la tranquillité. On est dans la tranquillité, sauf que les nouvelles journalières sont bien là pour nous dire, bah, il y a déjà la guerre, même en Europe, il y a la guerre au Moyen-Orient, il y a un peu tous les pays qui s'en mêlent, il y a la guerre au Congo, et autrefois il y avait des guerres d'un pays contre un pays, mais maintenant c'est des groupes de pays contre des groupes de pays, et puis ça se développe et on voit l'incapacité des hommes à malgré tous les plans de paix qu'ils peuvent faire, ils arrivent à rien du tout. Et puis cette persécution antichrétienne se développe aussi. Alors on comprend que cette exhortation, est-ce que nous sommes prêts à être fidèles jusqu'à la mort, c'est quelque chose d'assez solennel. C'est pas quelque chose qu'on peut prendre légèrement. Alors pour le troisième cas dans Pergame, il est la promesse au vainqueur. Dans tous les cas, faut écouter ce que l'Esprit dit aux assemblées. Je l'ai déjà dit, je le répète, et c'est important de réfléchir en quoi nous sommes concernés. On dirait, je lui donne la manne cachée et un caillou blanc. Caillou. Alors, et puis, sur le caillou, il y a un nouveau nom, c'est le nom que nul ne connaît sinon celui qui le reçoit, s'il y a un nouveau nom qui lui est donné, que nul ne connaît, ça veut dire que c'est le Seigneur Jésus qui le donne. Donc il y a une intimité extrême, puisque il y a quelque chose qui se passe juste entre le Seigneur et puis celui qui reçoit ce caillou blanc. Caillou blanc, c'est des signes d'approbation et des manières de voter à l'époque. Et alors, la main cachée, c'est la nourriture du peuple et d'Israël dans le désert. Alors, c'est pas la nourriture en Égypte, c'est pas la nourriture en Canaan, c'est la nourriture uniquement dans le désert. C'est-à-dire, c'est pas la nourriture qu'il y aura dans les lieux célestes, c'est pas la nourriture qu'on était dans le monde, c'est la nourriture du pèlerinage du chrétien qui traverse ce monde. Et c'est-à-dire, c'est cette manne où on se nourrit pour traverser le désert si on a besoin de l'exemple du Seigneur, qui lui aussi a été affligé, fatigué, lassé, et qui nous donne l'exemple du chemin et de ce qui peut nous fortifier dans le chemin. Et alors ce chemin, on dira, mais pourquoi c'est un désert ? Alors le contexte de Pergame, c'était donc, le problème de Pergame, c'est la mondanité avant tout. Elle habitait, c'est-à-dire c'est son siège normal de sa situation. Est-ce qu'elle habitait à part pour Dieu ? Elle habitait là où Satan habite. Alors ça c'est quand même incroyable, une assemblée qui habite là où Satan habite. Et alors on dirait, ben, il n'y avait pas de témoin fidèle. Alors, effectivement, il y avait eu un témoin fidèle, Antipas, et ben, celui-là, il a été mis à mort. Alors, c'est bien une attitude dramatique d'une assemblée qui a cédé devant la mondanité, puisque le plus fidèle, il a été mis à mort. Et puis, là-dedans, il y avait un Balaam qui enseignait, c'est les Nicolaïtes. Alors les Nicolaïtes à Éphèse, ils avaient des œuvres, chapitre 2, verset 6, au chapitre 2, verset 15, ils ont une doctrine, et cette doctrine, eh bien, c'est donc il est bien dit, au verset 14, c'est enseigner à manger des choses sacrifiées aux idoles et à commettre la fornication. C'est le mélange avec le monde, mais enseigner pour dire, mais c'est cette doctrine qui consiste à dire, mais vous avez des problèmes avec le monde, vous avez des difficultés, ben c'est très simple, vous vous mêlez au monde et vous agissez comme le monde, et comme ça le monde ne sera plus contre vous, vous aurez la paix. C'est ça la doctrine des Nicolaïtes, c'est la mondanité établie comme solution adoptée volontairement pour échapper aux difficultés. Eh bien, on voit celui qui a la manne cachée. Eh bien, il réalise qu'il est dans un désert, qu'il est seulement un pèlerin, qu'il marche sans pouvoir pas comme dans le monde, sans jouir de ce qu'il y a autour, parce qu'il est dans un désert, on jouit de rien du tout, mais on a de quoi se nourrir. Et se nourrir comme man, c'est jour après jour, il y a la nourriture, et il y a la nourriture suffisante, il fallait la récolter tous les jours. On ne pouvait pas récolter pour 2 jours à l'avance, sauf le sabbat. Et on voit cette importance du chemin du vainqueur, et qui rejette la mondanité, mais qui trouve le Seigneur dans son pèlerinage journalier, et qui en jouit. Alors, le vainqueur à Thyatire, alors, d'un côté, c'est quelqu'un qui a l'air un peu faible, puisque au verset 24, il est dit, je vous impose pas d'autres charges, c'est-à-dire qu'il n'y avait pas simplement ce que vous avez, tenez le ferme. On pourrait dire, c'est pas beaucoup. Et ce qui est donné, c'est, je lui donnerai autorité sur les nations, verset 26. On se dira, mais comment ça se fait que Dieu donne à un croyant donne autorité sur les nations et que Dieu présente ça comme une bénédiction? Mais c'est que la situation de Thyatire, c'était très particulier, c'était et c'est encore très particulier, puisqu'il y a cette prophétesse qui enseigne et égare les esclaves et qui les pousse à la fornication. C'est plus qu'une doctrine des Nicolaïtes ou de Pergame. Elle les entraîne, verset 20, elle les entraîne à commettre la fornication et à manger les choses sacrifiées aux idoles. Et alors, on comprend, cette prophétesse, elle a voulu dominer. C'était Jézabel, la femme d'Acab, dans l'Ancien Testament, dans le livre des Rois, à partir du chapitre 16, elle voulait dominer. Elle voulait écraser Élie, écraser le culte de Dieu, pas sur tous ses caractères. Et alors, en somme, la récompense qui est promise, c'est simplement de dire, mais c'est pas elle qui va gagner, c'est pas cette autorité profane de prophétesse perverse qui va gagner, c'est ceux qui tiennent ferme ce qu'ils ont et qui le tiennent ferme jusqu'à ce que je vienne. C'est le verset 25. Et eh bien, c'est ceux-là qui ont l'autorité sur les nations, parce que Dieu se servira des croyants pour dominer les nations, mais c'est une autre question sur laquelle je ne peux m'arrêter. Et puis, on voit cette autorité qui est forte, les termes utilisés sont ceux du psaume 2, paître les nations avec une verge de fer et briser comme des vases de poterie, c'est le psaume 2. Alors, et puis, je lui donnerai l'étoile du matin. Il goûte la venue du Seigneur avant qu'elle arrive. Retenons simplement pour ce vainqueur-là, cette importance de tenir ferme, même dans un contexte de désordre intégral. Pire que la ruine, et même plus que du désordre, puisque c'est la situation où c'est des prophétesses perverses qui dominent l'Église. Je continue. Alors, donc, Sarad, c'est la promesse du vainqueur, c'est simplement d'être vêtu de vêtements blancs, le nom qui n'est pas effacé du livre de vie, ça veut dire que c'est cette certitude que Dieu garde les siens, et vêtements blancs, c'est ceux qui manifestent la sainteté de Dieu, alors que Sardes, il n'est pas dit grand chose sur Sardes, sinon donc tu as le nom de vivre et tu es mort. On sait comme on aurait pensé qu'il y avait un renouveau à partir du désordre de Jézabel, mais ça aboutit à rien du tout, à la mort. Alors là aussi, il y a quand même quelques vainqueurs, mais au fond, vêtements blancs, et ils en sont dignes, c'est-à-dire c'est quand même, ils ont les caractères, comme il est dit également dans les Éphésiens, mais au chapitre 4, où il est dit, là, être renouvelé dans l'esprit de votre entendement, avoir revêtu le nouvel homme, créé selon Dieu en justice et sainteté de la vérité, ayant dépouillé le vieil homme qui se corrompt. Voilà quelqu'un qui est vraiment en vêtements blancs d'une manière digne du Seigneur. On trouve ces exhortations des épîtres aux Éphésiens. Et puis, alors, on arrive à Philadelphie. Donc j'ai dit que c'était les deux seules assemblées fidèles, et de façon aussi étonnante, c'est dans ces deux assemblées qu'on retrouve les mêmes ennemis qui sont appelés la synagogue de Satan. Synagogue, c'est en un sens, c'est l'assemblée. Dans l'épître de Jacques, le mot synagogue est utilisé pour assemblée, mais c'était les assemblées des Juifs. C'était pas l'assemblée de ceux qui sont réunis au nom du Seigneur. C'est des assemblées humaines, et là, c'est assemblée de synagogue, assemblée humaine de Satan, de ceux qu'il est dit, de ceux qui se disent être juifs. C'est-à-dire qu'il y a une prétention religieuse, une prétention à être le peuple de Dieu. Et alors, c'est très frappant de voir que les pires ennemis des églises fidèles, qu'elles soient sous la persécution smyrne ou sous la tranquillité avec Philadelphie, dans tous les cas, c'est la forme religieuse de la synagogue de Satan, la prétention religieuse de ceux qui se disent être le peuple de Dieu, s'ils se disent être juifs, mais ils ne le sont pas, c'est précisé, mais ils mentent, c'est chapitre 3, verset 9, et il arrivera le temps où ils seront obligés de reconnaître, se prosterner devant tes pieds. Alors, sur ce point-là, il est important que nous fassions bien la distinction entre assemblés, réunis au nom, autour du Seigneur, réunis en son nom, dans l'obéissance, en gardant sa parole, comme il est dit, d'avec n'importe quel rassemblement ou groupe religieux, fût-il même chrétien. Il y a ce risque de dire, bon ben, on est entre chrétiens, on se réunit, ben, c'est pas mauvais en soi, c'est toujours, si c'est pour s'édifier et se nourrir de la parole, prier ensemble, c'est bien toujours bon. Mais attention, si c'est un rassemblement qui perd de vue l'assemblée, le propos de Dieu quant à l'assemblée, rassemblement qui finalement est un rassemblement d'hommes avec des prétentions religieuses, ben, on voit que ça devient ennemi de ce qui est vraiment l'assemblée selon le propos de Dieu. Alors c'est quelque chose de très solennel, parce que d'abord ça nous guette dans le temps présent, ensuite ça nous montre la différence entre ce qui est assemblé au nom du Seigneur, autour du Seigneur, d'avec ce qui est des prétentions religieuses ou des organisations humaines. Faisons très attention à ces choses-là, et il y a besoin de vaincre. Il y a besoin de vaincre, et de, chapitre 3, verset 11, de nouveau, de tenir ferme ce qu'on a, afin que personne ne prenne ta couronne, parce que il y a une couronne méritée quand on garde la parole, et on ne renie pas le nom, c'est chapitre 3, verset 8, mais on peut tout perdre. Ça, c'est grave et solennel. Et alors, il y a ces promesses. Je ferai une colonne dans le temple de mon Dieu. On a là le contraste entre Philadelphie qui a peu de force, chapitre 3, verset 8, mais qui a besoin d'une porte ouverte pour continuer, parce que c'est comme si elle avait même pas la force d'ouvrir une porte. Elle a besoin qu'on lui ouvre la porte. Et voilà que maintenant, sa promesse, c'est d'être une colonne dans le temple de mon Dieu. On voit au contraire une solidité, contribution au sanctuaire de Dieu qui est tout à fait remarquable, et puis qui se joint à une intimité de communion, j'écrirai sur lui le nom de mon Dieu, et qui se lie à l'attachement à l'assemblée. Il y a écrit sur lui le nom de la cité de mon Dieu, la Nouvelle Jérusalem, et tout son caractère précieux est décrit dans le chapitre 21. Alors, on voit le prix extraordinaire, donc, de ce vainqueur de Philadelphie qui nous soit donné d'emporter les caractères en gardant la parole. Disons que on retrouve cet aspect essentiel que dans un temps où tout est en désordre et en ruine, ben, la pensée de Dieu demeure et on la connaît, on la garde et elle guide et elle est suffisante et elle amène à la bénédiction. Alors, le dernier état, c'est bien l'Odyssée, c'est la tiédeur. Tiédeur, alors, d'ailleurs, l'expression est assez étonnante parce que on dira, mais tiède, il y a la vie ou il n'y a pas la vie? Et les choses sont pas exprimées de cette façon-là ici, parce que Dieu regarde plutôt l'extérieur, pas tellement l'état intérieur proprement dit. Effectivement, la difficulté extraordinaire de ce cas-là, c'est que c'est quand même une assemblée, c'est quand même appelé une assemblée, c'est quand même une assemblée à laquelle le Seigneur fait écrire, et pourtant, elle est malheureuse, misérable, pauvre, et puis le plus grave, c'est aveugle, inapte. Alors, dit, mais il n'y a plus rien là-dedans. Alors, effectivement, il faut être vêtu, sinon c'est la honte. Il faut un collier, sinon on continue à être aveugle. Et puis le Seigneur frappe parce qu'il est dehors. Alors, il promet une intimité. J'entrerai chez lui, je souperai avec lui. Alors, de ce côté-là, c'est merveilleux de voir que la communion demeure et subsiste pour le fidèle. Mais c'est dramatique de penser que le Seigneur soit dehors et qu'il soit obligé de frapper. Quelle bonté qu'il veuille frapper encore à la porte. C'est une bonté sans pareil. Eh bien, que nous retenions, que nous puissions être de ceux qui ont des oreilles d'abord, et puis que avec ces oreilles, on écoute ce que l'Esprit dit aux assemblées, que le Seigneur veuille faire fructifier sa parole.